Bienvenue dans la 76e émission de Tatapoum, l'émission de Critique Rock de Cause Commune, diffusée les 3e et 4e dimanches du mois à 20h sur le 93.1 de la bande FM. Je vous rappelle l'adresse de nos sites internet, puisque nous disposons désormais de notre site sur la radio Cause Commune, ainsi que l'ancien, celui de tatapoumrfpp.free.fr. Je vous invite à vous y référer pour écouter nos anciennes émissions. Et de cette émission, de quoi sera-t-il fait ? Cédric abandonnera-t-il son côté curé de gauche et sa propension à chercher des circonstances aux plus indigents des groupes ? Héloïse s'autorisera-t-elle à émettre une critique acerbe et usée de mauvaise foi ? Mathieu parviendra-t-il à sortir de ses circonvolutions entre ses classifications hasardeuses et ses souvenirs de concerts ? L'ingénue Nina demeurera-t-elle toujours aussi sommaire ? Et nos deux planqués derrière la vitre, Marion et Bibi, seront-ils montrer de l'enthousiasme devant la sélection d'albums qu'on vous propose de découvrir. C'est ce que vous allez découvrir, puisque nous allons vous transporter tour à tour dans le Vermont, le Missouri, à Sydney en Australie, et pour finir à York dans le nord de l'Angleterre, afin d'entendre nos avis sur les derniers albums de Rubber, Crash, Station Model Violence et Salem Tries. Et on débute tout de suite avec Rubber, à la française, hein, un plaisant groupe nord-américain qui prouve qu'on peut encore retravailler l'indie musique en les mettant au goût du jour, à la façon des jeunes d'aujourd'hui. Voici un premier extrait de l'album, d'un morceau, de l'album qu'a sélectionné Nina. Ça s'appelle New Year's Eve.
Yeah.
c'était New Year's Eve de Robin Rubber. Nina, c'est toi qui nous a sélectionné ce morceau, c'est toi qui vas nous les présenter. As-tu trouvé l'origine de cet étrange nom et sa signification ?
Alors, non pas le nom du groupe, mais le nom de l'album par contre. Donc Robert et pas Robert Robert pour anticiper les blagues de Cédric. C'est un quatuor états-unien originaire du Vermont et plus précisément de la ville la plus peuplée de cet état avec la frontière avec le Canada, une ville qui s'appelle Burlington et qui a 40 000 habitants. Après Wild Guest, leur premier album sorti en 2024, Robert Robert a sorti en avril dernier le petit deuxième sous le label Fire Talk Records intitulé Two Wheels Move the Soul, en français Deux roues font bouger l'âme. Ce titre s'inspire d'un slogan de motard mettant en avant la connexion spirituelle du motard avec son véhicule et la sensation de liberté liée au fait de faire de la moto. Et pourtant, Robert Robert n'est pas spécialement du rock de biker. Pour planter le décor, l'album a été composé suite à l'incendie de l'appartement des deux membres fondateurs du groupe, Nina Kate, chanteuse, et Zach James, batteur. À noter que les deux sont multi-instrumentistes et ont également assuré des parties de basse et de guitare sur l'album. Donc forcément marqué par cet événement, Two Wheels Move the Soul explore ainsi les thèmes de l'instabilité, de l'incertitude et de la perte de repères, s'inscrivant dans un contexte de crise du logement et de hausse du sans-abrisme post-Covid dans le Vermont. L'album est marqué par de multiples influences, post-rock, shoegaze, krautrock, trip-hop. Et à ce propos, je dois dire que j'ai eu un peu peur avec le premier morceau qui commence avec une batterie très drum and bass, qui pour moi est un peu le jazz de la musique électronique, c'est-à-dire que je trouve ça terriblement indigeste. Et je suis un peu restée là-dessus, et franchement, à la première écoute, j'étais pas vraiment convaincue par le disque. Et puis, il y a quelques titres qui m'ont plutôt parlé, comme New Year's Eve, qu'on vient d'entendre, Pieces ou Talk Back, qui m'ont donné envie de réécouter plus attentivement l'ensemble. Et finalement, j'ai trouvé brillant des morceaux qui ne m'avaient pas séduite au premier abord. Je pense à cette basse hyper noise dans The Sound It Made, ou dans Watch for Infection, ou à cette boucle rythmique industrielle dans Avalanche Sound Effect, ou It's Perfect Out Here in the Sun. J'ai quand même du mal avec ce genre de musique où des instrus très noise entrent en contraste avec une voix très douce et nonchalante. Ça m'a rappelé Just Mustard qu'on avait chroniqué il y a quelques mois dans l'émission et j'avais déjà ressenti ce truc-là. Pour ma part, j'aime plutôt quand la voix suit l'énergie des instruments, quand ça déraille. Et même si je conçois très bien que ce soit un parti pris et un genre à part entière, c'est ce qui fait selon moi le gros bémol de ce disque et c'est aussi ce qui fait pourquoi j'aurais du mal à suivre ce groupe.
Ouais, je comprends. Bon, à la mine des confites de Cédric, je comprends qu'il a eu quelques réticences aussi à apprécier toute la saveur de cet album hyper moderne, puisque ça partage beaucoup de choses de ce que font la scène rock des jeunes d'aujourd'hui.
Eh ben oui, tu disais que j'étais parfois trop indulgent, ça va te ravir. Là, un peu moins d'indulgence, là. Je suis resté un peu sur ta première impression, Nina, finalement. Bon, voilà, c'est un mélange de pop, indie, comme on dit aujourd'hui, pour faire le malin. Enfin, c'est de la pop, quoi. Bon, que je connais mal et que je goûte assez peu. Et puis de l'expérimental. À tout prendre, je préfère encore de la pop, quoi, en gros. Et donc, bon, voilà, je voulais voir est-ce que finalement, moins par moins donne plus, quoi, ou est-ce que la somme du tout vaut plus que les parties,
je sais plus quoi, non,
le tout vaut plus que la somme des parties, merde. Ah, ça, c'est il y a longtemps qu'on disait ça. On va dire que si parfois le croisement des contraires a du bon, ici, on est plutôt du côté, pour prendre quelques images, du restaurant spécialisé en kebab sushi ou du social-libéralisme ou encore du punk rock de Versailles, quoi. La Macédoine ne prend pas du tout à mes yeux. Alors je sais plus si c'est Mélenchon ou les Mormons qui disaient ils vont peut-être mieux pas trop se mélanger, quoi, en gros. Et j'en reste à peu près là, quoi. Et puis même les paroles, c'est souvent sous forme de collage de fragments. Je trouve ça assez hyper arty, prétentieux. J'avoue, pour moi, ça a été quand même un peu un petit calvaire, cette écoute. Même si des titres après Pieces, ça va mieux, parce qu'il y a beaucoup moins de trucs un peu tordus, de dissonances inutiles. Un peu comme si l'album avait été coupé en deux. Après ce titre-là, et ce titre-là compris, c'est un bon disque de pop indie, quoi, pour celles qui apprécient ce genre-là. J'étais étonné de voir que le groupe avait rencontré un gros succès, hein. Évidemment, Pitchfork adore, hein, puisque en arty prétentieux, ils en connaissent un rayon quand même. Voilà, sinon, la pochette est sans intérêt.
Mathieu, à toi le tour.
Oui, vous l'avez déjà dit, hein, tous les deux, Nina et Cédric, c'est un album un peu déroutant, qui, pour moi, qui démarre plutôt bien, et en fait, assez rapidement, je me perds dans le dédale des errances des musiciens, parce qu'il y a des bonnes choses, mais également des morceaux qui me laissent largement dubitatif. En fait, la difficulté, c'est qu'il y a des soubresauts de bon goût qui évoquent, par exemple, ici, Blood Red Shoes, là, Pompoko, mais c'est vraiment uniquement par moment. Mais ce qui fait qu'on lâche pas l'affaire, au risque régulièrement avéré d'être déçu, tant c'est parfois plus mou que de la soupe. Mais il faut avouer, quand on est en train de faire autre chose, comme prendre l'ascenseur ou de faire sa déclaration d'impôt, on est sûr que ça va pas nous déranger ni nous distraire.
D'accord, c'est tranché comme opinion. Et on termine avec Héloïse.
Difficile de rebondir après ça, je vais tenter. C'est un album dont le postulat est assez tragique, Nina l'a rappelé, puisqu'il a tout de même été inspiré par l'incendie de l'appartement du groupe, mais qui au final se révèle étonnamment doux, mélodique et aérien. De cet incendie, le disque emprunte une forme d'urgence sur laquelle se déploie un univers post-punk qui tire vers le psychédélisme et qui est marqué par une dissonance comme sur les morceaux Avalanche on Defect ou Watch for Infection et son incroyable rythmique jazzy qui sont pour moi des soubresauts de bon goût, pour te paraphraser Mathieu, et qui m'ont rappelé à bien des égards les sonorités de Sonic Youth, groupe que par ailleurs j'adore. Selon moi, il en résulte un disque à la composition riche et aux sonorités hypnotiques que j'ai trouvé très enthousiasmant.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je l'ai sélectionné. Hein. C'est vraiment un disque qui est typique de ce que font une bonne part de la scène rock actuelle. S'il a été encensé par Pitchfork, c'est pas par hasard. Il correspond à un son qui va être un peu le son des années 20, je pense, pour une bonne partie de la scène rock internationale. Et donc, c'était aussi pour ça que je voulais vous le soumettre à vos oreilles, parce que c'est vraiment un style particulier. On va entendre un deuxième morceau, vous allez vous rendre compte, ça s'appelle Pieces.
Thank you.
Et voilà, c'était Pieces par Robert. Et on passe maintenant à Crash. Crash, rien que le nom laisse deviner qu'on n'aura pas affaire à des poètes. Mais ce choix est délibéré de ma part, car depuis que j'entends qu'on se plaint dans l'émission Constroy qu'on n'y passe pas assez de punk, j'ai opportunément choisi d'en sélectionner pour vous, pour grossir l'audience de l'émission. Écoutez-moi ce parfait morceau de punk hardcore old school choisi par Héloïse. Ça s'appelle Answer par Crash. Answers, pas facile j'imagine de trouver des infos sur un groupe qui s'appelle Crash, dont là le titre de l'album est éponyme. Pas moins de 45 occurrences apparaissent sur Discogs avec ces deux critères, et c'est pourtant tout le talent d'Héloïse d'être parvenue à nous livrer plein d'infos sur ce quatuor du Missouri qui nous sort son premier album chez Dirtbag Distro. Et j'ai quand même pas tout dit, Héloïse.
Non. Alors, Crash est un groupe, comme tu l'as dit, de punk hardcore originaire de Kansas City au Missouri, formé par Cassie Knox à la voix, Cash à la guitare, Kennedy à la basse et Fish à la batterie. Ils viennent de sortir leur premier album éponyme, donc chez Dirtbag Distro, qui est un sombre label de Kansas City. Et le moins qu'on puisse dire, comme tu le soulignais justement, c'est qu'au jeu du nom du groupe le plus original, ils ont définitivement perdu. Puisque lorsque l'on tape Crash sur un moteur de recherche, donc outre les magasins de musique, hein, puisque la Crash désigne une cymbale de batterie, vous pourrez tomber pêle-mêle sur un groupe de thrash metal sud-coréen, originaire de Séoul, un groupe de pop-rock de Turku en Finlande, ou encore un groupe d'indie-rock anglais formé dans les années 80 à New York. Mais là n'est certainement pas l'essentiel. Dans cet album éponyme, Crash ambitionne de revenir aux fondamentaux du hardcore, dépouillé de ses coquetteries sonores qui, au fil du temps, ont permis au style d'évoluer en façonnant sa diversité et sa richesse. Au diable donc les influences jazzy du jazzcore, metal du metalcore, ou tous ces éléments de fusion hip-hop ou rap qui font la particularité d'excellents groupes tels que Soul Glow, au profit de sonorités hardcore brutes façon années 80. Il en résulte sans vraiment d'originalité une batterie frénétique soutenue par une basse régulière et omniprésente, une guitare saturée déchaînée et un bèglement rageur se déployant sur un tempo rapide. Le tout ne dépassant pas classiquement 17 minutes, et à écouter la manière dont ces quatre gars-là se déchaînent, on comprend aisément pourquoi, et revendiquant fièrement son appartenance au mouvement libertaire, le A de Crash étant représenté à la manière du A de l'anarchie. Ainsi, c'est pour ma part un album qui coche toutes les cases, hein, qu'elles soient politiques ou musicales, et qui sonne surtout comme un coup de poing dans la gueule, un disque qui met le feu aux méninges en ramenant aux fondamentaux épurés d'un style que je trouve passionnant, 17 minutes de musique bruyante, concise et efficace, un bijou.
Ouais, totalement d'accord. Et Cédric, ton côté hardcore était sensible à ce disque?
Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de mensonge sur la marchandise, hein, avec Crash, c'est bien du fracas, quoi, ça va vite, ça arrache, c'est du hardcore, ça fait pas dans la nuance. C'est du rouleau compresseur, ça donne l'impression d'avoir entendu 1000 fois, mais pourquoi pas. Et puis parfois ça fait du bien quand on est vénère ou qu'on a envie de dégueuler le monde, d'écouter ce genre de groupe, quoi. Hormis le titre Decay, qui offre une sorte de répit d'une minute 27, bah, tout le reste c'est une formule qui consiste à répéter 10 fois le même titre ou à peu près. Tout est joué au plus vite et crié, pressé d'en finir, mais ça passe pas mal, quoi. C'est pas simple de retirer des titres en particulier. Bon, j'avais noté celui qui s'intitule Throw Me Away. Alors, je sais pas pourquoi, hein, puisque tout se ressemble, mais c'est celui que je préfère, quoi. Voilà. Sinon, quoi dire de plus? Bah, du coup, je suis allé voir le label, hein, qui sort cet album, la Dirtbag Distro, qui produit pas mal de groupes de ce créneau, quoi, en gros. Et j'ai notamment bien retenu Jacket Burner, hein, qui est plus dans le garage punk sale, ou un groupe assez étrange, Academy Order. Donc, on pourra peut-être en reparler un jour, quoi.
D'accord. Bon, bah c'est pas si mal finalement. Et toi, Mathieu, tu es accroché?
Ben en fait, vous l'avez déjà dit, hein, c'est du hardcore à l'ancienne, c'est bien fait, ça pourrait même être d'époque. Mais, enfin, que dire de plus? Tu l'as dit, Cédric, on a entendu ça des milliers de fois. Toi, tu dis un millier, moi, j'ai plusieurs milliers de fois. Pour moi, rien ne sort de marquant de cet album. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que c'est du hardcore. Donc, en un gros quart d'heure, c'est terminé. Et en fait, c'est même pas que ce soit mauvais, c'est juste que assez rapidement, j'oublie que je suis en train d'essayer d'écrire d'écouter l'album pour le chroniquer. J'avais l'impression de m'endormir. Donc, est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que c'est intéressant? Non. Est-ce que c'est à conseiller? Ben non.
Oh là là, vous êtes dur. Moi, je moquerais pourtant suffisamment sur l'immobilisme de notre punk rock franchouillard pour ne pas être un paradoxe près en saluant les mérites du conservatisme assumé de Crash, tant la hauteur de leur album m'a plu. Comme ils l'assument eux-mêmes, Crash entendent demeurer là où les choses en étaient restées, c'est-à-dire à ce que produisait de meilleur la scène hardcore punk US des années 80. Il y aurait en effet de quoi s'y méprendre et croire qu'il s'agit d'un album oublié et redécouvert, mais un album qui aurait mérité d'être exhumé, car tout simplement très bon. Leurs 17 minutes et 11 morceaux de punk endiablé sont une réussite. Ils citent comme référence Minor Threat, Black Flag, les Germs. J'ajouterai pour ma part sur certains morceaux, parfois sur Outrage, Big Black ou No Trend ou les Spike in Vain. Bref, on est sur des bases très solides avec leur sens de la composition indéniable, une belle maîtrise du tempo, une touche personnelle malgré tout avec quelques solides noise en arrière-fond, le tout d'une exécution impeccable autant par le chant qu'au niveau des instruments. Le bonus supplémentaire vient de leur texte qu'ils ont la très bonne idée de rendre lisible sur leur Bandcamp. Vous pouvez aller voir ça. Ils sont à la hauteur de leur conflagration et de la musique qu'ils laissent entendre. L'expression d'un désespoir et d'une révolte sur comment va le monde aujourd'hui. Autant dire qu'on a là tous les ingrédients d'une petite pépite que toute amatrice et amateur de ce genre de musique ne peut manquer d'apprécier. Donc j'ai beaucoup aimé et je recommande chaudement Crash, dont on va entendre un second extrait avec Kill the Shield. We'll be right back. Et voilà, c'était Kill the Shield par Crash. Et après le hardcore punk, voici le post-punk avec Station Model Violence, un groupe en provenance de Sydney dont Cédric nous a choisi un premier morceau, Laser. Qui viendra après, mais Immobilism, comme on dit, par Station Model Violence, qui nous sort aussi l'album éponyme. Je vous recommanderais d'ailleurs d'aller voir la page Bandcamp de l'album, qui nous en apprend beaucoup sur la jeunesse du disque et le groupe lui-même. Entre autres choses, nos Australiens possède un goût prononcé pour le chablis et les champignons, interrogez-vous pourquoi, soit l'antithèse de Cédric qui se nourrit, lui, essentiellement de bière et de frites, mais qui, pourtant, a cependant beaucoup aimé ce disque, hein, c'est ça, Cédric?
Ouais, j'aime beaucoup ce disque de Station Model Violence, donc un groupe australien qui regroupe... six personnes, six membres, en particulier Dan Stewart au chant, qui est une figure importante du rock australien, puisqu'il vient de UV Race et de Total Control, qui est accompagné de Buzz Clatworthy aux guitares de RMFC, donc Rock Music Fan Club, et quatre autres membres, donc une basse, une batterie, une guitare et un saxo. L'album est produit par Mickey, qui est un ancien membre aussi de Total Control et de Eddie Current, hein, dont on a déjà souvent parlé. C'est aussi quelqu'un qui a mixé les albums de Royal Edek, UV Race, Kelly Stoltz, etc. Bref, on est ici au cœur du post-punk australien. Et c'est porté par deux labels qui ont produit des groupes dont on parle régulièrement, hein, Antifad qui a produit Delivery, Alan Nosejob et The Judge, ou l'autre label c'est Static Shocks qui a produit notamment Glass, Uranium Club et Power Plant. Bref, on est en terrain connu et sûr quoi ici. Et donc le groupe est né en 2024. Hein, tu l'as dit, c'est quand le chanteur déménage de Melbourne à Sydney. Donc il peut plus jouer avec ses anciens groupes. Et il sort d'abord une démo, hein, donc je cite, enregistrée après avoir mangé des champignons lors d'une fabuleuse soirée d'hiver. Donc un bon début. mais avec un risque hein, que ça débouche sur du Santana ou un truc dans le genre, mais pas du tout ici. Donc on a, c'est un album qui a 10 titres, dont un de 8 minutes, mais qui n'est pas du tout pénible, hein, qui pourrait penser, laisser penser que les champignons ont fait leur effet, qui était d'abord, c'est, le titre c'est Hit, qui était d'abord sorti en single, mais en deux fois plus court. Alors pour moi, c'est vraiment un petit bijou hypnotique de post-punk et d'inventivité. Je l'écoute en boucle depuis sa sortie. On y trouve des titres comme Leisure dans la lignée de Joy Division, d'autres titres comme Hit plus crowd, et des titres qui ne manquent pas d'énergie communicative comme l'excellent Drip Away ou le plus psyché Feeling Down, qui termine l'album. Les textes sont très sombres et ne sont pas en reste, ce qui n'est pas toujours évident avec les groupes australiens. Ici, c'est bien pensé comme titre. Ils ont le bon goût de les mettre aussi dans le disque, hein, parce que ça, c'est quand même assez pénible maintenant, les gens qui écrivent plus les paroles dans les disques. Notamment rien que le titre hein, qui ouvre l'album, Apprendre à haïr en plein jour, tout un programme. Bref, je trouve que cet album est vraiment excellent, et si par malheur il y avait un grincheux qui suit, ne l'écoutez pas et courez écouter cet album.
Mais de qui pourrait-il bien parler, Mathieu Cédric?
Je sais pas de qui il veut parler. En tout cas, moi, je vais jouer les grincheux. tu l'as dit, un groupe australien et des membres de RMFC, UV Raised, Total Control, ça peut que faire envie. Et en fait, dès les premières secondes, moi je vais vérifier que je m'étais pas trompé d'album, que j'avais pas lancé une mauvaise piste, parce que j'ai plutôt le sentiment d'un groupe qui singe tant les Chameleons que le Velvet Underground, autant dire beaucoup d'esbrouf, avec un contenu d'une faiblesse assez affligeante. Et en fait, je dis ça. Au fil des écoutes et des morceaux, ben ça s'arrange que rarement. Alors il y a bien Drip Away qui nous réveille un petit peu, mais sur plus d'une demi-heure, ça suffit pas pour me contenter, quoi. Bref, quand on est australien et dépressif, on n'est pas obligé de monter un groupe pour faire de la musique dépressive et fade. On peut se taire.
Oh non, quelle sévérité! J'espère que tu vas remonter la pente, Héloïse.
À tout le moins, je vais essayer. Alors, c'est un truisme que de souligner l'évidente appétence de cette émission pour la scène australienne, dont la bouillonnante créativité occupe nombre de nos chroniques. Si à force une telle omniprésence pourrait se prêter à un sentiment de déjà entendu, rien de tel avec Station Model Violence, qui à bien des égards se démarque de ses autres groupes tout en collaborant avec eux, notamment avec RMFC, tu l'as dit Cédric, dont il emprunte le brillant guitariste. Et cette singularité réside d'abord dans l'inspiration mais complètement barrée du projet, peut-être Champignon oblige, qui est décrite sur le Bandcamp, à savoir un documentaire de la BBC sur le crotrock, dans lequel Iggy Pop est assis les jambes écartées sur une plage en train de percer des trous dans des noix de coco, et de méditer sur le groupe de Neu, qu'il décrit comme du psychédélisme pastoral. Déjà tout un programme, mais elle se révèle surtout dans la richesse sonore du disque qui mêle sonorité post-punk psychédélique qui flirte parfois avec la new wave et qui enrichissent le célèbre combo basse-guitare-batterie ici et là d'un saxophone Tony Truant qui m'a rappelé celui de Viagra Boys. À l'image de RMFC, le sextet se démarque par la virtuosité de son exécution. Il en résulte un album d'une très grande profondeur, particulièrement dense et élégant, que j'ai pour ma part beaucoup apprécié.
Mmh, tout à fait. Nina, à ton tour.
Station Model Violence prouve une fois de plus que les Australiens sont bel et bien à la pointe du post-punk actuel. Cela dit, cette fois, on a affaire à un projet un peu plus original, comme disait Héloïse, un peu plus onirique que ce à quoi on a affaire habituellement. Ça change des groupes de post-punk australiens énervés, biniques, compatibles, que j'adore, mais il faut avouer qu'ils ont tous un peu la même recette, basée sur des riffs énergiques et un chanteur qui nous engueule dans une tonalité très homogène. Concernant l'album, on est plutôt sur un retour aux sources du post-punk, on sent à plein nez le Joy Division et les Sisters of Mercy. Quoique l'identité du groupe semble quand même reposer pas mal sur une guitare à 12 cordes, principalement utilisée en clean ou presque. Et au bout de 3-4 morceaux, je me suis dit que c'était bien sympa tout ça, mais ça reste quand même... on a compris l'idée. Et finalement, il y a une belle évolution. Ça s'énerve un peu au bout du 5e morceau qu'on a quasiment tous cité, Drip Away. Et on entre enfin dans le vif du sujet. L'équilibre se fait au fil de l'album et c'est au final une belle réussite qu'on a envie d'écouter quand on a soif d'introspection et de poésie. Pour ma part, j'ai trouvé ça très beau.
Mmh, ben moi aussi, j'aime bien l'accrocher. Moi, la référence, c'est plutôt Tuxedemoon. Je ne sais jamais comment on le prononce.
Tuxedemoon.
Tuxedemoon, oui. Mais j'ai un peu songé à ce groupe aussi, avec une belle...
Très chiant, oui.
Mais voilà, c'est pas juste un simple groupe de post-punk, comme on en voit beaucoup, qui viennent d'Australie. Ils ont vraiment une texture à eux, et c'est vraiment un des groupes qui m'a marqué depuis le début de cette année. Donc, ouais, une très belle Russie. Que je recommande aussi. Donc on va écouter donc cette fois Laser, parce que je m'étais trompé tout à l'heure, pour ce deuxième morceau. Laser par Station Model Violence. On change d'univers avec un dernier groupe, Salem Trials, un intrigant groupe anglais au parcours chaotique, dont le morceau Pan Pan Panic, choisi par Mathieu, va nous donner un aperçu.
Every day, pan, pan, pan.
entendre Pan Pan Panic de Salem Treehouse, dont la prolifique discographie n'est pas facile à démêler, mais un expert dont l'art du détricotage des styles et des influences qu'est Mathieu sera assurément s'y retrouver pour nous exposer tout l'intérêt de se pencher sur cette formation qui a un long parcours derrière elle.
Oui, voilà, Salem Trials, donc les procès de Salem, sort son nouvel album Fingerprint on a Blind Eye sur le label Metal Postcard, qui est un label qui initialement était basé en Australie et qui est passé par Hong Kong et je sais plus où, avant maintenant est installé en Indonésie, mais qui a conservé la même ligne éditoriale qui héberge aussi, par exemple, les Neon Crabs, qu'on a chroniqué dans le Tatapoum 73. Et d'ailleurs, c'est sans doute une surprise, on retrouve dans le groupe anglais Salem Trials Andy, qui est également dans les Neon Crabs et les Neon Kittens. Le monde est petit. Donc voilà, c'est un groupe originaire de Bradford qui a existé en fait entre 87 et 91. Et il s'est reformé, il est très actif depuis 2018, et il n'y a qu'à voir le nombre de sorties, alors de nouvelles sorties ou de morceaux inédits de l'époque qui ont été réenregistrés ou reproduits. C'est un groupe qui n'arrête pas. Donc on a ici du post-punk qui est un peu à l'ancienne hein, quand même, avec un chant qui, moi j'apprécie parce qu'il est pas vraiment autotuné, hein, il est brut, quitte à agresser l'oreille. Mais ce qui me plaît le plus, c'est l'inventivité qui conduit cet album à travers des sonorités et des tempi différents, tout en demeurant perpétuellement intéressant, selon moi. Je dois avouer que je le connaissais pas du tout, ce groupe. Pour moi, c'est une sacrée découverte. Et il va juste maintenant falloir me trouver un petit peu de temps pour découvrir tout ce que le groupe a pu précédemment produire. Autant dire que j'attends la retraite avec impatience.
Oui, t'as tout à fait raison. Il y a pas loin de 20 albums qui sont sortis depuis 2010 à peu près, qui se sont reformés. Et ils n'arrêtent pas de retravailler ce qu'ils avaient précédemment fait avant. Donc c'est vraiment surprenant et intéressant en même temps. C'est Cédric qui va nous donner son point de vue sur ce groupe.
Oui, alors avant, peut-être une petite précision, parce que je m'étais complètement gouré, je pensais que le groupe lui-même venait d'Indonésie, et pas uniquement le label. Et
ah donc, non, rien à voir, rien à voir.
Mais c'est pas grave, j'ai quand même parlé du punk en Indonésie. J'avais commencé à regarder ça, du coup. Je commençais un peu à regarder ce qui se passait sur cette scène indonésienne, parce que j'avoue que j'y connaissais pas grand-chose, à part le fait d'avoir une compile depuis un bon moment du punk de Bali. Je connaissais à peu près rien. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en gros, tout le courant musical underground a été confronté à un pouvoir autoritaire et dictatorial, notamment Suharto, mais aussi après, et qu'ils ont subi de multiples répressions. Par exemple, dans la province du nord de l'archipel, il y a un programme de rééducation qui a été mis en place pour remettre droit dans leurs bottes les punks dégénérés, ou droit dans leur doc.
Avec le Juppé qui vient intervenir, c'est ça.
Oui, c'est ça. Et en 2008, le mouvement a connu un moment tragique, puisqu'à Bandung, lors d'un concert local de metal punk, qui avait rassemblé plus de 1000 personnes, ils ont été attaqués par les forces de sécurité, ce qui entraînait un mouvement de foule et qui a fait 11 morts, quoi. C'est pas dans le détail, là. Et cette tragédie a été utilisée pour réprimer la scène musicale underground locale, qui doivent maintenant demander, depuis, l'autorisation de la police pour organiser des concerts, ce qui rend les choses assez compliquées. Et à l'inverse, le punk est parfois utilisé comme à Java pour du prosélytisme religieux, avec notamment le groupe Punk Muslim, et quelques autres. Et puis ils ont aussi vu des formes de division interne, puisqu'ils ont un groupe qui est un peu connu, un peu plus reconnu. Enfin, quand je dis un peu connu, évidemment en Indonésie, quand tu vends des disques, c'est tout de suite un peu plus que les 300 vinyles que tu vends en France. Un groupe qui s'appelle Superman is Dead, qui a créé un cataclysme en signant chez Sony, et là c'est vraiment très très important d'éviter les grosses boîtes. Et puis, il soulignait aussi, comme dans ce que je disais, c'était intéressant, c'est que finalement, les îles sont très isolées les unes des autres et que c'est pas si simple de faire passer les musiciens et musiciennes d'une île à l'autre. Et donc, il y a des sortes de sous-cultures, finalement, dans ce grand pays, quoi. Ça coûte aussi beaucoup d'argent et j'ai trouvé aussi des labels, notamment le label Metal Postcard Records, avec beaucoup de groupes post-punk, avec une scène très active, très orientée New Wave des années 80. Bref, j'ai tenté de reporter au maximum le moment de parler de Salem Trials. Je disais que c'était pas très dépaysant pour un groupe indonésien, mais de fait, ils le sont pas, donc c'est normal que ce soit pas très dépaysant. Alors, c'est assez sombre, à peu près tous les textes tournent autour de la mort. Avec un côté étrange, onirique, avec des réussites, hein, notamment le titre qu'on vient d'entendre, Pan Panic, et à mon avis des titres vraiment plus pénibles, hein, pour moi, comme 10,000 Names of God, par exemple, avec de longs solos de distorsion sans guère d'intérêt à mes yeux. Je suis pas très fan, en fait, de ce phrasé sur un son qui part un peu dans tous les sens, une voix brute, mais des instrus qui font un peu ce qu'ils veulent. Ça donne un peu l'impression d'avoir deux groupes, le chant d'un côté et le reste de l'autre, quoi. Bon, ça crée une atmosphère noire, mais finalement, je suis pas du tout rentré dans cette atmosphère.
D'accord. Bon, juste le propriétaire du label est australien. Il a migré à Jakarta et de Jakarta, en fait, il gère tout un tas de groupes, essentiellement européens d'ailleurs, pour une part. Et donc, d'où le côté indonésien du label. Voilà pour démêler. De toute façon, on a du temps devant nous, donc c'était bien d'en savoir un peu plus sur la scène locale. Nina, toi, as-tu accroché à ce Silent Trials?
Pas vraiment, non. En tout cas, dans l'émission, on commence à bien connaître Andy Goes, le type qui est derrière Silent Trials, mais aussi Neon Crabs, qu'on avait déjà chroniqué, comme tu l'as dit, Mathieu, le mois dernier. Sans surprise, avec le reste de sa discographie, on a affaire à du post-punk expérimental un peu chelou, quoique un peu moins dansant que ce que j'avais apprécié chez Neon Crabs. À part quelques titres sympas comme Pan Pan Panic ou Blind Eye, c'est un poil trop perché à mon goût, parfois même un poil inaudible. Cela dit, je salue la démarche car le post-punk, c'est un bon terrain de jeu pour l'expérimentation et les musiciens et musiciennes de Salem Trials l'ont très bien compris. Au final, je me suis dit qu'à l'image de la pochette de l'album, ça pourrait être une bonne BO pour du cinéma, je sais pas, du cinéma d'action un peu chelou ou du cinéma de genre. Mais à écouter comme ça, je trouve l'intérêt un peu limité et j'en retiens finalement pas grand-chose.
Mmh, d'accord. Héloïse ?
Eh bien, je dirais que c'est un album que j'ai trouvé assez improbable et ça commence dès la biographie du groupe que Mathieu a rappelé, puisqu'ils ont été créés en 87 à Bradford. Ils sont séparés en 91, ils sont reformés en 2018, parachutés en 2020 auprès du label indonésien, enfin faussement indonésien, Metal Postcard Records, de Bradford à Jakarta. Il y a quelque chose qui détonne dans ce parcours, mais cette singularité transparaît surtout, selon moi, dans leur musique, qui mêle mélodies roboratives, sonorité bruitiste industrielle et un chant sprechgesang à des inspirations qui tirent un peu dans tous les sens, du côté de la surf, de la disco, de la funk, voire même parfois du hard rock, une sorte de bouillie sonore dont l'unité réside en fin de compte dans l'usage d'effets. Il en résulte un univers qui est très surprenant, à la fois sophistiqué et musicalement simple. C'est pas l'album de l'année, mais ça se laisse écouter.
Eh ben, je te rejoins complètement. Pour moi, il s'agit un peu d'un groupe à part. Leur univers interlope se nourrit autant de styles différents qu'il est difficile de rattacher le groupe à un courant en particulier. Leur musique est à la fois extrêmement noise, avec beaucoup de distorsions, répétitive, avec une basse lourde et omniprésente, et un chant mi-chanté, mi-récitant, qui m'en fait penser un peu à Lou Reed sur certains de ses albums solo. On est donc à la fois dans l'indus autant que dans l'art rock, on est dans le songwriting par moment, et d'autre côté on peut passer à de l'indie post-punk. C'est vraiment une curiosité assurément singulière, et moi j'ai bien aimé, même si effectivement je suis d'accord avec toi Héloïse, c'est pas non plus l'album de l'année, mais voilà, ça c'est vraiment une découverte, une curiosité. On va écouter un deuxième morceau qui se nomme Blind Eye. Thank you. Trials par Salem Trials. Et Mathieu va nous dire un petit mot sur un CD qui vient de sortir.
Alors, c'est pas un CD, c'est une valise en fait. Parce que c'est une compilation qui s'appelle Les Voyageurs Punkify l'Hexagone. Toujours là et partout ailleurs. Donc c'est le Copon Voyageur hein, qui fait un beau moment qui s'occupe de faire ça, de préparer des compilations pour présenter des jeunes groupes ou des groupes connus. C'est vraiment quelqu'un qui veut qu'on conserve des traces des groupes. Donc ça c'est 4 CD. Il y a 101 groupes, 101 morceaux. C'est des morceaux. Alors, l'album a été masterisé au studio Résonance 93 par Josh. On en parle souvent à Constroy, on en parle beaucoup moins chez Tatapou, mais bah là c'est fait. Donc voilà, c'est une compilation qui est très 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 intéressante. Il y a des groupes que vous allez connaître. Il y a les Ludwig par exemple, rien que Ludwig von 88. Il y a les René Binamé et il y a plein de groupes que vous ne connaîtrez pas, genre Popo et les Branlettes. Je pense que on le connaît pas. Donc voilà, les Voyageurs Punkify l'Hexagone, c'est le Quepon Voyageur. Vous pouvez chercher et c'est quand même très 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 intéressant d'avoir un témoignage ponctuel de l'état de la scène punk. Au sens large.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Et voilà, c'est la fin de Tatapoum et Tatapoum épisode 76. Je remercie toute l'équipe et je vous invite à visiter notre site pour vous y retrouver dans toutes nos émissions. Et à la prochaine. À bientôt.